C'était le journal de Grégory Lesca.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Arnaud Pontus.
Bonjour et bienvenue dans Appel sur l'actualité. RFI vous donne la parole jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, nous parlerons une fois encore de l'épidémie d'Ebola. Les chiffres sont chaque jour plus alarmants. On dépasse désormais les 10 000 cas recensés dans le monde et le nombre de morts approche des 5 000. Le dernier pays touché, le Mali, où une fillette est morte vendredi, connaît un début de psychose. On signale aussi l'arrivée de ces 30 spécialistes français de la sécurité civile en Guinée pour épauler les équipes locales. Alors qu'en pensez-vous ? L'aide internationale est-elle suffisante? Votre pays est peut-être touché. Dites-nous comment vous vivez dans ce climat d'inquiétude. Vos réactions, vos témoignages sont les bienvenus comme chaque jour sur cette antenne. Je rappelle le numéro 33 9 693 693 70 et les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour poster vos messages. Mais pour l'heure, vos questions à la rédaction, vos questions aux journalistes de RFI comme chaque matin pour comprendre et approfondir les sujets qui font l'actualité. Dans les 20 prochaines minutes, nous allons parler de la situation politique au Burkina Faso, du Yémen, de l'offensive du général Haftar en Libye et de la guerre des roses en France. Le Parti Socialiste est-il au bord de la crise de nerfs? La première question est celle de Malik qui nous a appelé d'Accra au Ghana. Malheureusement, on n'arrive pas à le joindre ce matin, alors je vais me faire son porte-parole. Malik voulait nous poser une question sur la situation politique au Burkina Faso. Pour lui répondre, Yahya Boudani, correspondant de RFI à Ouagadougou, est avec nous. Bonjour Yahya.
Bonjour Arnaud.
C'est donc une semaine décisive, hein, on l'a dit dans chacune de nos éditions, qui s'est ouverte au Burkina. L'opposition a appelé à une journée nationale de protestation, aujourd'hui même. Jeudi, les députés doivent se prononcer sur une révision de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré de se représenter en 2015. Et Malik nous demande si l'opposition a un recours pour empêcher la réforme de la Constitution. Yahya.
Alors, pour être clair avec notre ami Malik sur ce point, l'opposition n'a qu'un seul recours, c'est de voter le non à l'Assemblée nationale. Et pour cela, elle a deux possibilités. Alors, la première des possibilités, c'est obtenir la majorité simple, c'est-à-dire 64 députés. Dans ce cas, il n'y aura ni référendum, ni modification directe à l'Assemblée nationale. Mais cette option doit être rapidement oubliée par les opposants. L'opposition ne compte que 28 députés à l'Assemblée nationale, donc difficile de s'opposer à cette modification dans ce cas.
Alors vous parlez de deux possibilités, Yahya, quelle est la deuxième option?
Oui, la deuxième option, c'est d'essayer d'obtenir au moins le référendum. L'opposition a toujours été opposée à la tenue d'un référendum, mais elle n'a vraiment pas le choix, comme l'a souligné Ablaye Ouédraogo du parti de façon autrement au cours d'une conférence de presse. L'opposition s'adapte au mouvement de l'adversaire. Alors, il a souligné que le président Blaise Compaoré a déclaré que le référendum n'était pas son premier choix. Donc, le tout va se jouer à l'Assemblée nationale. Si l'opposition réussit à convaincre d'autres députés de la majorité, elle pourra espérer le référendum. C'est-à-dire, si 4 députés de la majorité ne respectent pas les consignes de vote de leur parti, le projet de loi sera soumis à un référendum. Sinon, pour l'heure, les différentes déclarations d'intention, notamment celles de l'ADF, RDA et des autres partis de la majorité, l'opposition ne peut que compter sur la pression de la rue et elle est consciente de cela, raison pour laquelle d'ailleurs elle entame ce mardi une campagne de désobéissance civile à travers cette journée nationale de protestation. Maintenant, est-ce que cette campagne pourra faire reculer le gouvernement? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment ici à Ouaga.
Oui, bien sûr, Yahya. Malik avait une deuxième question pour vous. Quelle est dans ce conflit la position de l'Union africaine?
Alors, pour l'heure, on n'a pas entendu l'Union africaine se prononcer sur la question officiellement, mais la charte sur la démocratie des élections et de la gouvernance est très claire sur ce point. La charte africaine de l'Union africaine dit que quand une religion veut mettre en cause le principe de l'alternance, il s'agit d'un changement anticonstitutionnel. Cela est dit à l'alinéa 5 de l'article 23 que je vais citer. Les États partis conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens qui, après, pour accéder ou se maintenir au pouvoir, constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées par l'Union africaine. Et l'alinéa 5 dit, tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Donc, sont considérés comme anticonstitutionnels. Donc, d'ailleurs, sur la base de cette charte de l'Union africaine, que l'Union, la communauté internationale, notamment l'Union européenne et certaines organisations de la société civile, trouve que cette démarche du gouvernement est anticonstitutionnelle.
Merci pour ces précisions, Yaya Boudani, correspondant de RFI à Ouagadougou. Et j'espère que Malik aura pu entendre vos réponses à ces questions. Je vous signale que demain, vous pourrez débattre, vous les auditeurs, dans la deuxième partie de l'émission, avec Juan Gomez de la situation politique au Burkina. On rejoint à présent Amada. Bonjour Amada.
Bonjour Arnaud.
Vous nous appelez de Bamako au Mali. Soyez le bienvenu sur l'antenne de RFI. Vous avez des questions concernant le Yémen, on vous écoute.
Effectivement, j'ai entendu que les rebelles chiites se sont emparés de plusieurs villes au Yémen. Les questions sont les suivantes. Quelles sont les revendications du groupe rebelle chiite?
On va commencer par celle-là. Oui, Amada, on va commencer par cette première question, les revendications du groupe rebelle chiite. Et pour vous répondre, c'est Abla Jouniaidi du service international qui est avec moi en studio. Bonjour Abla.
Bonjour, bonjour Amada.
Que veulent ces rebelles, donc qui ont pris il y a un mois, on va le rappeler, la capitale, Sanaa.
C'est ça.
D'autres localités plus au sud, dont un port stratégique. Que veulent-ils?
Voilà, alors que veulent les chiites? Tout le monde se le demande, puisque au départ, les chiites avaient effectivement des revendications, comme le dit Amada. Ils manifestaient à Sanaa même pour demander des réformes politiques, pour faire partie du gouvernement, pour mettre fin à la corruption au sein du gouvernement, et demandaient aussi que le prix du carburant n'augmente pas. C'était une des revendications principales. Mais entre-temps, donc les manifestations ont pris de l'ampleur dans Sanaa et ça a fini par un affrontement armé entre les chiites dans la capitale et les sunnites du parti Al-Islah notamment. Et donc c'est à partir de là qu'ils ont pris, ils ont gagné en force et ils ont poussé leur avantage. Donc ça c'est depuis septembre dans Sanaa où ils ont pris le contrôle de plusieurs bâtiments publics dont le siège du gouvernement en septembre et ils ont poussé leur avantage vers le sud. Donc là on assiste à une nouvelle phase en fait tout à fait inédite où les chiites veulent pousser leur avantage au maximum sur le plan militaire.
Amada, vous aviez une autre question.
Effectivement, la deuxième question c'est pourquoi Al-Qaïda est en conflit avec ce groupe chiite ?
Abla.
Oui, alors on rappelle que les chiites sont une minorité au Yémen et qu'en poussant vers le sud, les chiites sont entrés en territoire sunnite. Donc ils affrontent à la fois des tribus sunnites qui répliquent pour protéger leur territoire et en même temps, plus ils poussent vers le sud, plus ils se retrouvent en confrontation directe avec des territoires qui sont où Al-Qaïda prospère. Et donc là, plus question d'avancer aussi facilement et les combats en ce moment même sont vraiment féroce à Al-Baïda au centre du Yémen où Al-Qaïda donc affronte directement ses milices chiites de façon enfin il y a eu 250 morts en 4 durant les 4 derniers jours. Donc c'est la confrontation est beaucoup plus féroce parce que tout simplement Al-Qaïda est sunnite, Al-Qaïda c'est l'ennemi numéro 1, ce sont les chiites pour Al-Qaïda.
Abla, on parle des chiites, des sunnites, des milices, des rebelles et dans tout ça le gouvernement.
Bah, le gouvernement, bonne question. Le gouvernement déjà n'est pas encore, l'équipe gouvernementale n'est pas encore en place puisque le président a nommé il y a à peine 10 jours un premier ministre qui est en train de composer son gouvernement. Donc le gouvernement non seulement n'est pas encore en place, mais en plus il y a le rôle de l'armée qui pose vraiment question en ce moment au Yémen puisque comment les chiites ont avancé aussi rapidement, comment ils ont pris le contrôle de Sanaa et comment ils avancent vers le sud. Il faut souligner le fait que l'armée n'a pas beaucoup résisté ni dans la capitale ni plus au sud et donc d'aucuns disent que bon l'armée n'est pas non plus forcément avec le gouvernement et qu'elle a pris le parti, en tout cas plusieurs unités de l'armée ont pris le parti des rebelles chiites, d'où la facilité avec laquelle les chiites avancent.
D'accord, merci pour ces précisions Abla Jounaïdi. Amada, j'espère qu'on a répondu à l'essentiel de vos questions.
Effectivement, vous avez répondu à l'essentiel des questions.
Eh ben, merci beaucoup et bonne journée à vous, à Bamako, au Mali.
Merci à vous aussi.
À présent, nous allons parler de la situation en Libye et plus précisément de l'offensive du général Khalifa Haftar contre les groupes islamistes à Benghazi. Benghazi, je le rappelle, c'est l'une des zones les plus troublées de la Libye, la deuxième ville du pays qui est aux mains des milices islamistes depuis le mois de juillet. Hubert nous appelle de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Bonjour à vous, Hubert.
Bonjour Arnaud.
Soyez le bienvenu sur RFI. Nous vous écoutons.
Les derniers jours, j'ai appris sur votre chaîne qu'il y a un maître général de Kadhafi qui était en train de mener une grande offensive pour débarrasser la ville de Benghazi et tous les groupes armés islamistes. Alors, je voulais savoir qui est ce maître général de Kadhafi.
Alors, Hubert, on vous entend très mal. Alors, comme je sais la question que vous allez poser, puisque on s'est déjà eu en ligne il y a quelque temps, je vais la poser à votre place. Je suis désolé, mais on vous entend trop mal pour que je laisse la ligne ainsi. Vous demandiez pourquoi ce général, ancien proche de Kadhafi, a lancé cette offensive sur Benghazi. Et qui est-il ? Alors, pour vous répondre, on est en ligne avec Pascal Lepotrema, docteur en histoire contemporaine et spécialiste des crises et conflits. Bonjour et merci d'être avec nous.
Oui, bonjour, merci à vous.
Qui est donc ce général qui veut reconquérir Benghazi ?
Écoutez, je crois que ce qu'il faut retenir en quelques mots, c'est que le général Khalifa Haftar est l'un de ceux qui furent, je dirais, les compagnons d'armes du colonel Kadhafi quand il a pris, en fait, le pouvoir, on est en 69, contre le roi Idriss Ier. Et il va rester relativement proche du régime de Kadhafi jusque dans les années 80. Alors, on l'a vu aussi intervenir au Tchad, hein, dans les années 80 également. Et puis, petit à petit, il va prendre ses distances par rapport à la dérive, effectivement, que l'on sait être narcissique de l'ancien président libyen. Et puis, plus récemment, il a fait sa réapparition en disant qu'il ne pouvait tolérer qu'il y ait une véritable dérive du pays, comme on le sait suite à l'opération Harmattan, avec une islamisation forcée, un radicalisme armé, et donc le risque d'un pays qui est en proie à une véritable anarchie et aujourd'hui à une partition. Donc il a proposé ses services. Et longtemps, on a eu des doutes, puisqu'on se disait, enfin je dis on, les Libyens, les autorités, je dirais provisoires, se demandaient quelle était finalement sa finalité.
Est-ce qu'il voulait prendre le pouvoir après tout ? Est-ce qu'il organisait en quelque sorte un coup d'État ?
Exactement. Mmh. Et puis, en fait, il semblerait, là, depuis le mois de mai dernier, qu'il ait, je dirais, créé une sorte de consensus qui a été validé au mois d'octobre à la Chambre des représentants, qui est retranchée à Tripoli, en disant, ben finalement, on donne le feu vert à Khalifa Haftar pour mener une véritable offensive, pour essayer d'éradiquer la menace islamique à Benghazi. Et donc, il a réussi à créer une force paramilitaire et à même récupérer, je dirais, des soldats, des troupes régulières, enfin le reste de ce qu'il restait de l'armée.
Et quelle est sa stratégie alors ? Comment compte-t-il faire pour reprendre Benghazi ?
Bien, en fait, c'est une opération à la fois terrestre, avec une véritable offensive en règle, et puis des actions aériennes, puisqu'il faut savoir qu'il a récupéré un certain nombre d'aéronefs dans le reste de l'armée de l'air qui avait en place encore au moment de l'opération 2011. Il y a des hélicoptères russes, bon je ne vais pas vous donner les caractéristiques techniques, mais et il y a même quelques avions, et puis il faut savoir aussi que justement, il y a eu des avions de combat émiratis, hein, donc les Émirats Arabes Unis, qui ont frappé il y a quelques mois, en partant d'ailleurs d'Égypte, les positions des islamistes, parce que les Émiratis refusent aussi qu'il y ait une montée en puissance des islamistes affiliés aux frères musulmans.
Pascal Lepotrema, on va conclure dans un instant, mais est-ce que ce général, cet ex-général, a les moyens de ramener la paix, puisque c'est ce qu'il promet ?
Ah oui, de toute façon, sa détermination est entière, est intégrale, et on ne peut pas en douter. Il fédère des volontaires libyens qui ne veulent surtout pas d'une dérive islamiste, parce que je vous rappelle quand même qu'à la base, ce pays, c'est plus dans une démarche laïque. Hein, Kadhafi est quand même axé là-dessus. Donc ça reste quand même quelque chose de fiable, mais ça va être bien entendu en lien avec la stabilité politique.
Et une toute dernière chose, est-ce qu'il peut attendre un soutien quelconque de la communauté internationale ? C'est ce que nous demandait notre auditeur Hubert.
Moi, je crois surtout que, de manière cynique, la communauté internationale attend que les résultats soient, remplis par ce général. Ce qui les intéresse surtout, c'est finalement le maintien de l'extraction pétrolière et tout cela donc avec l'intérêt particulier des multinationales que l'on connaît.
Une certaine stabilité. Merci Pascal Le Potremain, docteur en histoire contemporaine, spécialiste des crises et conflits, d'avoir répondu aux questions que nous avait adressées Hubert de Lubumbashi en République démocratique du Congo et que nous saluons. Pour terminer cette première partie, une dernière question, mais comme j'ai pas de chance avec les auditeurs, on n'arrive pas à les avoir en ligne. C'est Eric à Maroua, dans le nord du Cameroun, qui avait une question concernant la politique en France et plus particulièrement le Parti Socialiste. Eric qui me dit, j'ai entendu différents responsables socialistes faire des déclarations qui remettent en cause l'action du gouvernement. Le PS est-il au bord de la fracture? Bah c'est vrai qu'il y a pas mal d'ambiance au Parti Socialiste en ce moment, n'est-ce pas, Nicèle Jabri? Bonjour.
Bonjour.
Entre les députés frondeurs, les ex-ministres plutôt bavards, est-ce que le PS est au bord de l'implosion?
Bon, faut quand même se rappeler que c'est pas la première fois que le PS se déchire. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, 2008, le congrès de Reims, Aubry et Royal qui s'affrontent pour la tête du parti. C'était une bataille de personnes, mais c'était aussi deux lignes politiques différentes. Ça a quand même donné lieu à des paroles très violentes. Je ne sais pas aussi si vous avez ce moment en mémoire. On avait parlé de menaces, de recours en justice. Oui. Tout le monde s'était demandé si le PS n'allait pas carrément se couper en deux. Et puis si on remonte encore plus loin, c'est vrai qu'au Parti Socialiste, on a toujours vu s'affronter deux gauches. C'était le cas notamment avec l'affrontement Rocard-Mitterrand. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que la situation semble plus grave. Hein. Déjà, François Hollande est à peine à mi-mandat et tous les affrontements ressortent. Et puis il faut ajouter que chaque camp, hein, en quelque sorte le socialiste classique contre social-libéral, chaque camp se radicalise, se livre à une concurrence sans merci. Vous parliez des déclarations de la semaine dernière et notamment celle que Benoît Hamon a faite sur RFI, hein, en estimant que la politique du gouvernement menaçait la République.
C'est quand même
voilà, extrêmement fort. Bon, alors, il y a des affrontements chez les dirigeants. On en a beaucoup parlé sur cette antenne. Il y a aussi de vraies et profondes divisions dans la base militante. Hier, Journal Libération a rendu un sondage public. Quand on voit ce sondage, aucun camp ne l'emporte vraiment. Hein. Il y a 36% des sympathisants de gauche qui se disent proches de Hollande et de Valls. Donc c'est ce qu'on a tendance à assimiler à la ligne sociale-libérale. Mais il y en a à peu près autant qui se disent proches des socialistes critiques et frondeurs. Et puis encore tout le reste, donc encore un autre gros tiers qui se dit pas concerné, voire carrément consterné. Et donc ça, c'est beaucoup plus inquiétant parce que aujourd'hui, ça voudrait dire que les socialistes, une partie du peuple de gauche, eh bien, ne sait plus en qui ou en quoi se retrouver.
Une partie très fracturée. Hein. Au milieu de tout ça, est-ce que le patron du PS, le premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, peut encore rassembler les courants au sein du parti?
Eh ben, ça s'annonce pas très facile. Hein. Parce que ces divisions, elles vont aussi chercher leurs racines dans quelque chose de qui va être difficile à calmer, c'est la bataille pour le leadership, parce que personne ne le dit pour l'instant, c'est encore très très tabou, hein, mais les cadres du parti, les ministres, ils sont tous déjà dans l'après-Hollande. Ils parient tous que le président ne se relèvera pas de son impopularité record, qu'il ne pourra pas se représenter et que de toute façon 2017 s'est perdu. Donc ils sont partis dans une espèce de course à l'échalote, qui sera le chef, ou alors qui empêchera les autres de l'être. Hein, c'est un peu le cas de la stratégie qu'on prête à Martine Aubry. C'est pas tellement ce qu'elle veut, mais elle sait ce qu'elle veut pas. Et ça, c'est Manuel Valls. Et Manuel Valls, c'est aussi sa ligne. Alors pour faire retomber la pression par Jean-Christophe Cambadélis, il a pas beaucoup de moyens à sa disposition. Il essaye actuellement avec les états généraux du PS, c'est-à-dire faire parler les militants, leur donner des idées sur la ligne du parti, mais on voit bien que ça ne marche pas très très bien.
Ça marche pas bien. Vous parliez de 2017, prochaine élection présidentielle. Quelles conséquences ça peut avoir, toute cette division au sein du PS, dans la perspective de la prochaine présidentielle?
Ben là aussi, je vais pas être très optimiste pour le Parti Socialiste.
Faut pas rire, madame. Hein. Oui, il vous reste une minute.
Non, mais parce que je vous fais des réponses pas très positives. Bon, PS, c'est vrai, a toujours été capable des synthèses les plus extrêmes, des plus grands écarts. Le problème, on revient toujours à la question du leadership, c'est de savoir qui peut émerger pour l'apporter cette fameuse synthèse. Et pour l'instant, on ne voit pas qui est en position de la réaliser. Petit rappel quand même, lors de la dernière enquête d'opinion sur la base militante en 2011, soit un an avant la présidentielle, il y avait une convergence de valeurs de toutes les familles de la gauche. C'est ça qui a permis de l'emporter. Aujourd'hui, on le voit, on en est très loin.
On en est très loin. Merci Anissa El-Jabri pour ces précisions. Et j'espère qu'Éric Amaroua, dans le nord du Cameroun, qui nous posait ses questions sur les divisions du Parti Socialiste français, a pu entendre vos réponses. Vous restez avec nous sur RFI. Vos autres questions sur l'actualité et le débat à suivre dans un instant. On parle de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Les moyens mis en œuvre sont-ils suffisants? On vous écoute dans un instant pour le débat. C'est dans 10 minutes.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie. Transfert